Caroline Galmot ?
Oui, bonjour.
Bonjour. Donc, vous êtes la directrice artistique du Festival MIMA, c'est la 29e édition. Du 3 au 6 août, ça se déroule à Mirepoix, à Lavelnet, mais aussi avec quelques incursions dans les petits villages aux alentours. Et cette année, la thématique, c'est « L'homme est-il un animal comme les autres ?» Et vous avez mis en exergue du dossier « Si toutes les bêtes disparaissaient, l'homme mourrait d'une grande solitude de l'esprit, car tout ce qui arrive aux bêtes arrive bientôt à l'homme, toutes choses se tiennent, et c'est d'un chef Sioux, en 1854. Pouvez-vous m'expliquer le choix de cette thématique, puisque ces temps-ci, il y a beaucoup de réflexions autour de la place justement de l'animal dans la société. Est-ce que vous pouvez me préciser ce choix, s'il vous plaît ?
Oui, bien sûr. Bah, c'est vrai qu'on en parle beaucoup en ce moment. Alors, on ne s'est pas forcément concerté, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de philosophes, de penseurs qui travaillent sur cette question. Et c'est, me semble-t-il, assez naturel dans une société qui est à la fois de plus en plus normée, cadrée, et qui en même temps révèle des natures humaines, parfois de manière inattendue. Mais nous sommes, a priori, nous, en tant qu'hommes, faits et constitués d'une nature aussi qui peut être animale et qui parfois surgit malencontreusement ou heureusement. Donc c'est aussi à travers l'actualité, à travers de ces écrits, de ces réflexions qui sont menées actuellement dans nos sociétés contemporaines, que nous avons choisi par le biais de la marionnette de questionner cette relation de l'homme à l'animal, mais aussi en intérieur, c'est-à-dire notre part animale qui
est en nous.
Est encore en nous. Voilà, qui est en nous. Et c'est vrai que la marionnette est un médium formidable pour pouvoir faire ressortir ce qui est invisible. Et exprimer à travers des œuvres artistiques, une écriture, mais aussi un langage plastique, ce qui nous traverse et ce qui nous constitue ou ce qui nous anime. Et c'est vrai que je pense que la férocité humaine que nous avons, que nous subissons depuis quelques années, qui se révèle un peu partout dans le monde, nous interroge forcément. Et après, c'est intéressant parce qu'en creusant un peu le sujet, on se rend compte que finalement l'homme est peut-être beaucoup plus féroce que l'animal.
D'accord.
Mais il ne sera pas question de férocité pendant le festival. C'est vrai que c'est parti de actualité un peu terrible, mais justement en creusant ce sujet, on se rend compte qu'il y a beaucoup de points communs, et c'est une nécessité de se replonger aussi dans notre nature et de nous écouter.
Parce que, comment dirais-je, il est question de notre part d'animalité, mais aussi ça suppose une question de territoire aussi, de partage, de vivre ensemble aussi, comment les animaux et nous, les humains, pouvons-nous vivre sans nous faire mal c'est aussi toute cette problématique, puisqu'il y a notamment des spectacles qui ont à voir aussi avec le territoire, avec les frontières.
Oui, tout à fait. C'est vrai que on a voulu aussi travailler cette question sur les liens qui constituent aujourd'hui l'homme et l'animal. Donc, on parle beaucoup aujourd'hui de souffrance animale, de la condition des animaux dans nos sociétés humaines, et on a tendance un peu à oublier que nous vivons ensemble dans un même territoire,
espace,
dans un même monde, dans un même espace, et qu'il est nécessaire d'être à l'écoute aussi des espèces, donc qui peuvent être en voie de disparition, mais aussi des espèces les plus proches de nous, et on ne peut pas se passer de cette coexistence qui est nécessaire aussi et intrinsèque à nos quotidiens. Et c'est vrai qu'en milieu rural, là où nous sommes ici à Mirepoix, dans nos campagnes,
des fois c'est
les cultures font place, remplacent, on va dire, le pastoralisme ou et c'est vrai qu'on voit de moins en moins d'animaux, et ça peut nous manquer, et en même temps c'est l'évolution de l'homme et l'évolution de nos vies et de nos besoins peut-être, mais il est nécessaire, je pense, de rappeler que l'animal est aussi nécessaire pour nous, pas seulement sur des questions alimentaires, oui, mais surtout sur des questions d'équilibre, mm-hmm, pour la nature, mais aussi d'équilibre de notre constitution. Mm-hmm. Après, je ne rentrerai pas dans des propos philosophiques ou psychologiques, parce que ce n'est, mm-hmm, pas notre domaine, mm-hmm, mais en tout cas, on a voulu porter un film sur cette question-là, et avec les artistes qui nous ouvrent une réflexion, une sensibilité, mm-hmm, ça nous donne des axes de réflexion.
Bien
et
sûr,
des
pistes, voilà, oui. Parce que même si vous dites que vous ne voulez pas rentrer dans une démarche philosophique ou du moins aller trop loin, que ce n'est pas le propos, mais en lisant votre programmation et en regardant toutes les propositions que vous nous offrez, puisqu'il y a 25 compagnies, oui, avec toujours dans des, puisqu'il faut rappeler que c'est un festival international, avec des compagnies dont, notamment venant d'Allemagne, peut-être nous en parlerons si nous avons le temps, puisque tout à l'heure, une venant du Liban aussi, celle par rapport, oui, justement à votre territoire est fait autour de l'argile, aussi dans beaucoup de compagnies de la région. Vous offrez aussi l'opportunité à des compagnies de présenter leur premier spectacle. C'est notamment l'occasion pour une compagnie arégeoise qui est toute jeune, si je comprends bien, et qui présente son premier spectacle. Il y a 5 créations 2017. Donc ça, c'est ce vaste éventail que vous proposez. Mais oui, donc je disais qu'en regardant, en lisant toutes les propositions, votre démarche me fait penser aux psychologues qui, pour justement mieux comprendre l'être humain, s'inspiraient des travaux des éthologistes et dont vous, par le biais, le festival MIMA, par le biais poétique et ludique, justement aussi arrive comme ça à cerner la complexité de l'homme en regardant les animaux et en se posant des questions entre l'homme et l'animal, et quel est celui qui, des fois, a des attitudes, disons, les plus animales, entre guillemets. Mmh. Il y a tout ce... Parce que notamment, je pense au spectacle où il y a le dauphin et le dresseur. Oui. Quel est le dresseur, quel est le dresseur, quel est le dressé, mmh, quel est ce rapport, qu'est-ce que ça veut dire de dresser un animal. Enfin, il y a toute une réflexion comme ça qui est élaborée à partir, certes, toujours d'un dispositif très ludique, très poétique.
En fait, nous, notre mission, enfin celle en tout cas qu'on s'est donnée, oui, c'est de poser des questions, mm-hmm, d'interroger sur des sujets qui aujourd'hui
sujets de société
importantes, voilà, dans la société actuelle. Mm-hmm. Et ce sont des courants de pensée en fait qui nous traversent, oui, même de manière inconsciente.
Bien sûr.
Et c'est vrai qu'en regardant les spectacles l'année dernière et cette année, donc en constituant aussi la programmation, je me suis rendu compte que finalement cette question, les artistes aussi
se la pose
et finalement on n'est pas dans une obligation de, enfin je veux dire, on n'est pas dans, on demande pas aux artistes de nous donner des réponses à ces questions, mmh, mais ils suggèrent des pistes de réflexion. Et c'est vrai qu'on peut beaucoup s'amuser avec la marionnette, et par exemple sur le spectacle de Flippant le Dauphin qui est réalisé, enfin créé par un artiste brésilien qui est incroyable, qui s'appelle Evandro Serodio, qui est à la fois ventriloque, mmh, et qui du coup ces questions anthropomorphiques, elles sont en direct, elles se déroule sous nos yeux. Et donc, on voit réellement la métamorphose et la transformation de l'homme en animal et tout le processus qui s'ensuit. Et donc, comment, effectivement, l'homme peut devenir animal, mais dans son comportement, dans ses réflexions que nous, évidemment, que les artistes, en tout cas, essaient d'imaginer comment qu'est-ce qu'un animal pourrait penser si il pouvait... parler, comment il se comporterait si, donc c'est évidemment une manière un peu fantasmée de l'homme sur l'animal, mais néanmoins il y a une belle observation des artistes sur le comportement animal et qui après peut être traduite sur scène, mmh, au travers d'une transformation, d'une question anthropomorphique, et donc il y a vraiment un travail plastique. Alors Evandro est en plus ventriloque, donc oui, il fait parler l'animal, oui, mm-hmm, donc c'est assez drôle. Alors évidemment on n'est pas dupes, on voit bien que c'est,
oui,
c'est,
oui,
un vrai dauphin,
je comprends,
mais on se laisse porter,
oui, emporter,
voilà, par le jeu, et du coup ça peut nous emmener aussi sur des terrains assez drôles, assez clownesques, mais il y a toujours une part de vérité, et ça révèle quelque chose de très juste aussi, mm-hmm, sur la relation entre l'homme et l'animal. Et bon, voilà, donc ça c'est vrai que c'était pour Flippant le Dauphin qui Evandro donc joue de cette relation et s'imagine bah voilà si effectivement c'était le dauphin qui finalement pouvait dompter l'homme, qu'est-ce qu'il dirait, comment il se comporterait. Mais il y a aussi, vous avez parlé de des artistes libanais, c'est ce collectif de Beyrouth qui vient et qui nous sous nos yeux recrée le monde à partir des d'argile. Sables et avec de la terre. Et donc il y a le monde est évidemment créé à la base, à l'origine, par des paysages et par des animaux. On est les animaux sont à l'origine de notre société. Donc il recrée ça sous nos yeux, c'est absolument magnifique, c'est très physique, c'est très plastique, enfin c'est très très beau. Et en même temps, ce monde est après, on va dire détruit, voilà, il se passe des choses, et après reconstruit. Donc c'est sans cesse cette envie de dire, ben voilà, on est sans cesse en reconstruction, en renouvellement. Et par le visuel, sans les mots, nous le raconter, voilà, c'est vraiment un très beau travail, en plus par des artistes qui sont à Beyrouth, qui sont en train de monter un festival, un lieu de résidence, un lieu de création, avec toute la complexité que l'on connaît
de ce pays,
sur le terrain. Et voilà, c'est des, je trouve, des démarches qui sont assez, assez remarquables et qu'il faut encourager. Et vous avez parlé de soutien à la création, les arts de la marionnette foisonnent d'artistes aujourd'hui qui sont en train d'inventer des nouveaux langages artistiques, des nouveaux langages scéniques qui en plus nourrissent le théâtre, la danse, les arts de la rue, les arts du cirque, où aujourd'hui on retrouve beaucoup la manipulation d'objets, on retrouve beaucoup la présence même de matière ou de marionnettes qui influent aussi sur le sur la dramaturgie ou sur le ou sur le jeu au plateau. Et donc on se doit, enfin évidemment à Mirepoix, de rendre compte de cette foisonnance, de cette diversité et de cette jeunesse, parce que en Occitanie il y a énormément d'artistes.
Et oui, j'ai vu.
Voilà, très prolixe, très inventif, très créatif. Et il est évident que nous, à Mirepoix, on a envie de rendre compte de cette grande diversité et de cette création. Donc il y a, mais pour la dernière compagnie qui vient de s'installer en Ariège, qui s'appelle SPGK, qui a été, on va dire, créée il y a quelques mois, mais pour autant, les artistes qui font partie de cette compagnie sont issus d'artistes, enfin, ont travaillé de nombreuses années avec d'autres artistes, ont beaucoup voyagé, etc. Donc c'est aussi des comédiens, des plasticiens, des scénographes qui travaillent avec d'autres artistes et qui à un moment ont envie de se poser, de créer leur propre compagnie. Bah oui, pourquoi pas en Ariège, parce qu'il y a ce festival, il y a cette dynamique, il y a ce vivier qui peut les aider et leur impulser aussi une vie et une existence pour leur travail.
Et donc ça s'appelle L'eau lulaire, c'est ça, hein, le spectacle.
Voilà. Alors le spectacle s'appelle L'eau lulaire. Là, c'est une première petite forme qu'elles ont créée dans l'idée où l'année prochaine, ça sera une plus grande un plus grand spectacle. Et là, ce sont des créatures qui sont explorées avec entre l'homme et la marmite. Donc c'est une création de cabos. C'est bah, c'est assez drôle, hein. Évidemment, c'est ludique. C'est à partir de 4 ans où tout d'un coup on voit évoluer sur scène cette espèce de créature avec une grosse marmite. Donc c'est vraiment la rencontre entre un corps et l'objet. Qui est une marmite de 100 litres. Voilà, donc avec des jeux de lumière, avec des jeux physiques, on voit ces créatures se mouvoir et évoluer sur scène.
D'accord. Il y a aussi le travail de, comment dirais-je, que vous qualifiez de citoyen, pour, avec la petite poule qui est, qui a à voir avec l'alimentation et aussi avec la surconsommation, qui interroge cette problématique. Comment nous, l'homme, se nourrit-il dans nos sociétés?
Oui, alors c'est vrai, là c'est Rêve d'une poule ridicule par la compagnie de l'Hypoféros. C'est une compagnie qui est basée aussi en Occitanie et qui interroge notre rapport évidemment à la bouffe, ou à la malbouffe plutôt, mais dans un esprit tout à fait drôle et poétique. Donc c'est impulsé comme ça, oui, des idées aussi qui peuvent donner à avoir, à s'interroger sur notre quotidien, sur ce qu'on fait, sur ce qu'on sur ce qu'on mange.
Comment consomme-t-on ?
Mais sans pour autant être dans un esprit didactique
ou
moralisateur ou pédagogique. C'est insufflé comme ça, suggérer des réflexions sur notre sur nos quotidiens. Et ça me paraît important. C'est vrai que les spectacles, il y a aussi il y a plus de saisons par la compagnie Figure Libre. Il y a aussi une création d'une compagnie régionale qui elle s'interroge sur nos rythmes qui sont complètement fous et sur le fait qu'on ne s'arrête plus et sur le fait que surtout en ville
comment vit-on les saisons
et on les voit moins, on les voit plus donc les saisons finalement ne sont plus montrées par les arbres ou par la nature que l'on voit évoluer et changer au fur et à mesure des saisons mais plutôt par là c'est l'époque des sols donc c'est ponctué par d'autres et donc là aussi c'est de manière assez drôle et assez ludique, mais c'est aussi notre rôle de pouvoir diffuser des spectacles qui interrogent nos vies, notre quotidien, nos sociétés et la manière dont on vit dans ce monde et ça s'adresse évidemment aux enfants.
Vous avez aussi, vous proposez aussi le lendemain de certains spectacles des retours de scène pour justement engager des discussions.
Oui, c'est important pour nous que
leur retour,
on puisse proposer au public qu'ils puissent rencontrer les artistes parce que
c'est important,
de rencontrer, un spectacle, c'est déjà une première rencontre avec l'artiste, avec sa démarche, avec son œuvre, mais après pouvoir discuter avec lui et l'entendre sur la manière d'écrire son processus artistique, comment ça marche finalement tout ça, les coulisses,
comment
ça
se fait,
ça peut être passionnant parce qu'on se rend compte de ce qui motive, de ce qui influe l'artiste et de comment il crée. Ça peut, je pense que ça peut aussi lever des interrogations, ou des méconnaissances, on peut découvrir aussi tout un monde que l'on soupçonnerait pas. Et c'est vrai que la création dans les arts de la marionnette aujourd'hui, c'est intéressant de voir comment elle se fait, puisqu'il n'y a pas en tout cas en Occitanie, de lieux spécifiquement dédiés. Il y a un lieu de compagnonnage à Quinte-Fonce-Griffe qui s'appelle Audradec, qui accompagne des artistes régulièrement des artistes dans l'année. Pour autant, ça ne suffit pas. Il y a 80 compagnies de marionnettes dans la région. Et il y en a sur toute la France au moins 400. Donc, à un moment, comment la région aussi peut être un espace de création pour les compagnies d'ici, mais aussi pour les
compagnies autres,
qui sont en France et voire au-delà. Ça pourrait être intéressant d'en discuter avec les compagnies. Mais là, sur les retours de scène, enfin les bords de scène, comme on dit, c'est vraiment rentrer dans la démarche de l'artiste, le rencontrer dans son quotidien, qui il est, comment il vit,
comment les spectacles se fabriquent,
et comment les spectacles se fabriquent et se financent et se produisent aussi, parce que c'est pas en une semaine qu'on crée un spectacle. Il faut des fois plusieurs années.
C'est toute cette démarche, que vous proposez de faire reconnaître au grand public, si je puis dire. J'aimerais aussi que nous revenions sur la résidence qui avait eu lieu à l'automne 2016, durant deux mois, où dont les artistes se sont comme ça imprégnés localement, si je puis dire, ont été à la rencontre des habitants, et où maintenant c'est restitué sous forme de photos, de vidéos. Ouais. C'est quelque chose aussi qui est important pour vous dans votre démarche.
C'est important de relier ce qui se passe dans l'année à Mirepoix au festival
qui a lieu une semaine en août, oui, bien sûr.
Exactement, et que le festival ne soit pas
posé comme ça, tout seul.
C'est un événement un peu parachuté avec une succession de spectacles, mais c'est un événement qui a lieu aussi à Mirepoix, sur ce territoire rural en Ariège et dans lequel on habite toute l'année. Et ça nous semble important que pendant ce festival, on puisse se rendre compte de ce qui a été mené avec les habitants et puis aussi menée avec les artistes, bien sûr, et du coup pour sensibiliser et ouvrir les arts de la marionnette toute l'année sur Mirepoix, on mène ce qu'on appelle des résidences de territoire, c'est-à-dire qu'on invite un artiste ou une compagnie pendant 2 mois, donc un temps assez long, à s'immerger, à vivre finalement avec nous à Mirepoix, autour d'un projet, et donc à inviter les habitants et puis des partenaires, en fait, le plus grand nombre de gens possible, que ce soit des commerçants, que ce soit le pays d'arrêt d'histoire, évidemment les enseignants, la cité scolaire, etc., à construire avec l'artiste un projet qui puisse les intéresser. Et donc là, du coup, on est parti avec Eric de Saria, qui est un marionnettiste et un metteur en scène de la compagnie
Philippe Gentil,
qui est une grande compagnie de marionnettes, une des premières peut-être en France, qui a 40 ans. Voilà, vraiment une compagnie très très reconnue au niveau international.
Qui est présente d'ailleurs dans le cadre du festival.
Du coup, bien sûr, puisque c'est Eric en plus qui joue dans le spectacle, donc les habitants l'auront côtoyé pendant 2 mois, et là ils vont le voir aussi
sur scène
jouer. Donc c'est
tout un parcours,
Et Eric, il a arpenté les villages de Mirepoix à la recherche des traces animales. Donc évidemment, c'était le sujet aussi qu'on a développé sur l'année. Et finalement, quelles sont les traces des animaux qui restent en Ariège, enfin, Mirepoix et son pays, que l'on peut retrouver aussi dans l'architecture et donc dans l'histoire de l'architecture. Et c'est vrai que Mirepoix est quand même une ville d'art et d'histoire où l'on retrouve sous les couverts, sur la cathédrale, des têtes sculptées, des têtes animales qui sont sculptées. Et donc, cette présence animale, elle est là depuis des siècles, depuis le 14e siècle. Et donc, on a voulu réinterroger et finalement valoriser aussi ce patrimoine auprès des habitants en leur disant, mais voilà, il y a ça qui existe depuis le 14e siècle, qu'est-ce que ça vous évoque? Et aujourd'hui, quel rapport finalement vous avez avec l'animalité? Voilà, donc il y a eu un certain nombre d'entretiens qui ont été menés avec les gens par Eric de Saria sur leur rapport à l'animalité, sur est-ce qu'ils ont des animaux, comment ils se comportent avec eux, dans le sens où est-ce qu'ils prennent soin, prendre soin. On a invité des personnes qui travaillent directement avec les animaux, donc centre équestre ou des éthologues ou des vétérinaires, voilà, à débattre avec nous à partir d'un film, par exemple, ou de plusieurs films qui ont été projetés au cinéma. Il y a tout un ensemble comme ça d'actions qui ont été menées avec les habitants et des partenaires sur cette question-là de l'animalité, que l'on rencontre évidemment pendant le festival, où du coup la galerie d'art de l'office de tourisme sera complètement transformée, où on va retrouver des têtes animales et puis aussi de la fabrication. Enfin, la reproduction de ces têtes sculptées en marionnettes qui ont servi pour un spectacle cet hiver, et que là on va évidemment installer. Il va y avoir des films projetés sur tout ce travail qui a été mené. Et puis c'est l'occasion aussi de continuer cette enquête. Donc on va, Meryl Norlander, qui est une plasticienne qui a contribué à cette résidence, sera présente au festival et donc va continuer l'enquête auprès des festivaliers qui voudront bien jouer le jeu et nous donner un petit peu leur réponse, à leur rapport à l'animalité et à leurs animaux, s'ils en ont.
Oui,
c'est important pour nous de faire un lien entre l'année et le festival.
Et le festival, oui, qui est comme ça, ce fil qui se déroule et que ça fasse un tout. Nous pouvons dire peut-être 2 mots sur le village qui est scénographié, comme tous les ans.
Oui, alors c'est vrai que c'est important pour nous de travailler l'espace public d'une manière qui puisse identifier aussi le festival, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des spectacles dans la rue et que ça anime, mais pour dépasser cette question d'animation ou animatoire, on va dire, du festival, on avait aussi envie de faire appel à des scénographes qui sont des artistes. Donc c'est pas une déco, c'est une scénographie, c'est-à-dire que c'est vraiment
une mise en
espace exactement de la ville. Alors depuis 3 ans, on travaille avec Charlotte Humbert, qui est une scénographe de Strasbourg. Et qui plutôt travaille dans la muséographie et qui scénographie plutôt des espaces intérieurs, mais qui là depuis 3 ans travaille avec nous et c'est assez intéressant de voir comment la ville, donc c'est assez monumental, puisse se transformer avec des matériaux de récupération. C'est vrai que malgré tout, le festival a quand même très peu de moyens. Donc on n'a pas. C'est aussi une question économique. Forcément, les moyens d'acheter des matériaux. Donc on fait avec
de la récupération.
Ce qu'on a avec de la récupération. Et la question, c'est voilà, Mirepoix est un magnifique village médiéval qui est très très beau. Donc la question n'est pas de l'embellir, parce que c'est vrai qu'on peut faire des scénographies pour embellir souvent dans les zones un peu difficiles, les quartiers populaires. Mais là, c'est un enjeu qui est autre. Et c'est que dire par la scénographie dans une cité qui est déjà réputée pour être très belle.
Il y a toute une histoire.
On n'est pas sur la question de l'esthétique ici, mais plutôt sur la transformation de l'identité finalement de Mirepoix, où on propose une autre manière de circuler dans la ville, où du coup on propose des espaces qui sont a priori grand ouvert, et que là on va un petit peu rendre chaleureux et puis propre à une on va dire je pense à la halle par exemple de Mirepoix, qui est complètement scénographiée, qui est vraiment le cœur battant, le cœur du festival, et qui va être notre lieu de convivialité, de rencontre, de soirée, et on va s'y sentir bien. En même temps, on voit la ville à l'extérieur, mais on est dans un espace à la fois intérieur et extérieur. Voilà, donc c'est comment transformer aussi la ville pour en donner un autre usage pendant le festival. C'est cette question-là qui est en ce moment même travaillée, puisqu'il y a des stagiaires qui sont arrivés et qui travaillent avec les scénographes en ce moment à la construction de la scénographie, qui va être ensuite mise en place à partir de mardi matin. Donc ils ont 2 jours après le marché de Mirepoix pour transformer la ville, ce qui est quand même assez un défi, mais ils y arrivent assez bien chaque année.
D'accord. L'année dernière, je sais que nous avions terminé l'interview, vous aviez d'une certaine manière tiré la sonnette d'alarme en disant que vous demandiez à ce que les institutions prennent en compte tout votre travail, tout ce que vous faites tout au long de l'année, comme vous nous l'avez si bien expliqué. Et est-ce que ont-ils entendu votre appel? Est-ce qu'ils vous soutiennent davantage? Comment cela se passe-t-il? Puisque c'est beaucoup d'énergie déployée, beaucoup de
travail. Oui, c'est évident qu'on agit en fait comme une structure culturelle à l'année, mais on n'est pas reconnu comme tel encore. C'est vrai que le festival est reconnu, pour autant le soutien au festival n'est pas suffisant pour effectivement, d'une manière légale, payer les salaires des techniciens, de nous-mêmes. On est tous sur une forme de précarité, on va dire, salariale. Donc ça, c'est pas encore tout à fait reconnu, mais c'est vrai que c'est très très long, mais j'ai quand même bon espoir. Les arts de la marionnette, et il fallait commencer par là, sont aujourd'hui reconnus depuis février dernier par le ministère de la Culture, donc c'est vrai que ça paraît quand même assez aberrant de dire ça, mais ça fait bientôt, nous, 30 ans qu'on existe, et les arts de la marionnette, n'en parlons pas, c'est un art ancestral, populaire, mais qui n'était pas reconnu comme une discipline artistique à part entière, au même titre que le théâtre, que la danse, que le cirque, que les arts de la rue, par exemple.
D'accord.
Donc, toute la profession s'est mobilisée, enfin, s'mobilise depuis 50 ans, avant même que je sois née, ou que le festival soit né. Donc, c'est un combat acharné qui a été mené par toute une profession sur plusieurs générations et qui enfin a abouti cette année, février 2017, le 6 exactement, on s'en souviendra dans la profession, par l'annonce de la ministre de la reconnaissance de la discipline comme un registre d'excellence et comme une discipline à part entière. À partir de là, à partir de cette reconnaissance du ministère, on devrait pouvoir améliorer quand même les conditions de travail et la structuration même de la discipline, que ce soit en région, dans le département, et on espère effectivement que sur le festival, il y aura des répercussions positives sur notre propre structuration. Donc c'est pas encore gagné. Pour autant, je sens effectivement qu'il y a une oreille attentive, on va dire, sur notre travail. Et l'inspectrice d'ailleurs du ministère de la Culture descend à Mima cette année, donc on est ravis de pouvoir l'accueillir et on espère bien que cette reconnaissance va se traduire par du sonnant et trébuchant. Et pas juste perdu, c'est bien ce que vous faites, continuez. Oui, voilà. Oui. Donc on continue, mais à un moment, on aimerait bien continuer aussi avec eux. Mais c'est très très long. C'est vrai que la culture n'est pas prioritaire dans les politiques gouvernementales et que quand il y a une crise, c'est toujours la culture et l'éducation santé d'ailleurs qui trinque. Et c'est un vrai problème d'ailleurs parce que en tant qu'une crise, c'est par la culture qu'on peut un peu remonter le moral,
sortir la tête de l'eau, et puis
créer l'émerveillement, mais aussi d'un point de vue économique, la culture crée de l'emploi,
de l'attractivité.
Touristique énorme sur des territoires ruraux et sans des projets culturels consistants, forts, avec une exigence artistique, ça se délite et les territoires perdent un peu de leur vie, de leur dynamisme. C'est évident et la culture avec un projet fort peut au contraire faire rayonner et être une valeur ajoutée pour le territoire. Donc nous c'est évidemment ce qu'on défend.
Bah oui.
Donc pour l'instant on n'a pas encore clairement d'amélioration de notre
quotidien,
de notre quotidien. Malgré tout, la DRAC nous soutient justement sur la résidence de territoire.
D'accord.
Et je tiens à préciser quand même que l'Europe, et par le programme Leader, nous soutient, et ça c'est nouveau. Et effectivement, l'Europe nous permet aujourd'hui de pouvoir sortir un petit peu la tête de l'eau et de pouvoir jongler financièrement et de sortir du déficit. Mais c'est l'Europe effectivement qui, et je tiens à le dire, et c'est très important, qui sauve un peu l'économie du festival actuellement, pour l'instant. Donc on espère que, parce que l'Europe ça dure pas, ça dure 2 ans, et ça devrait déclencher après et puis sur du structurant, c'est-à-dire vraiment sur du pérenne, quoi.
Oui, bien sûr. Bah oui,
après s'empare du projet véritablement et ne finance pas juste en tant qu'animation, mais vraiment en tant que structure. Et là c'est sûr, c'est pas les mêmes, on n'est pas sur les mêmes budgets.
Bien sûr.
Donc c'est une question qui va être travaillée dès la rentrée avec les collectivités, avec tous nos partenaires, et on espère qu'on va y arriver d'ici 3 ans.
D'accord.
Faut pas se décourager. Voilà.
D'accord. Mais nous ferons le point en 2018.
Voilà, pour la 30e.
Voilà. Et oui, là, j'imagine que ça doit être la grande effervescence, ces 30 ans de festival.
Eh ben, j'espère. Bah oui, il faut que ça soit la grande fête, l'explosion de tous ces talents, de
toute cette imagination.
L'occasion de à la fois de faire le point sur les grandes figures qui auront marqué le festival, mais en même temps, se tourner définitivement vers l'avenir et vers le demain. Et donc, j'aimerais bien, mais pour ça, il faut effectivement des moyens, mais j'aimerais bien vraiment porter vraiment une attention particulière à ce qui se fait au niveau international, parce que c'est vrai que les arts de la marionnette existent aussi dans d'autres pays.
Bien sûr.
La France est extrêmement créative, mais donc, voilà, que ce soit bien sûr une caisse de résonance, si je puis dire, de la création française et régionale, mais aussi internationale, parce que c'est toujours intéressant de voir ce qui se passe ailleurs et comment
cet art est abordé.
Questions...
Oui.
Voilà, exactement.
Peut-être un dernier mot, juste pour dire comment fait-on pour réserver par téléphone, par Internet.
Oui, alors c'est vraiment très simple. Il suffit de taper Mima sur son moteur de recherche et vous devriez tomber sur le site directement du festival.
D'accord.
Et à partir du site du festival, il y a un onglet billetterie et à ce moment-là, vous pouvez réserver en ligne via Festic ou alors aller directement sur le site de Festic. C'est possible aussi par téléphone, mais après nous de toute façon on le fait via Festic, donc si vous avez accès à Internet, autant le faire directement par ce biais-là, c'est beaucoup plus simple. Mm-hmm. Et je vous conseille de réserver quand même pas trop tard. Voilà, pas trop tard, parce que ça commence à se remplir.
Mm-hmm. Et donc c'est du 3 au 6 août, c'est bien cela?
C'est du 3 au 6 août, donc à la fois sur Mirepoix, différents lieux, on implante techniquement, mais aussi à La Vlanée, et on met en place des navettes gratuites entre Mirepoix et La Vlanée. Donc pour ceux qui n'ont pas de véhicule, il n'y a pas de souci, on se charge, c'est gratuit, on se charge de les transporter jusqu'à La Vlanée, qui est une ville qui est à 20 minutes, on va dire, de voiture de Mirepoix, et comme ça, ils n'ont pas à prendre en charge, ils peuvent garer leur voiture à Mirepoix. et après,
se laisser guider
dans le bus pour le spectacle à Lavelanet.
Mais en plus, c'est sympa d'aller ensemble, je trouve.
Oui, c'est bien. Puis on visite un petit peu aussi le territoire qui est magnifique. Oui. Et puis il y a aussi des spectacles dans les petits villages autour de Mirepoix, ou en lien avec le pays d'arrêt d'histoire, où on propose
des visites.
Par le pays d'arrêt d'histoire, donc une visite un peu patrimoniale qui dure 10 minutes, un quart d'heure. Et après, c'est suivi du spectacle et le spectacle est gratuit. Et là aussi, vous pouvez être transporté par le festival dans les petits villages. Et il y a une balade qu'on propose, qui est une balade en vélo de Mirepoix jusqu'à Bessette, qui est à quelques kilomètres, donc c'est 20 minutes de vélo. Et là, donc, l'animatrice du pays d'arrêt d'histoire, Marina, fera la visite de l'ancienne voie ferrée qu'on va suivre en vélo. Et arrivé à Bessette, il y aura le spectacle. Et donc, vous pouvez louer un vélo directement dans nos jardins, dans les bureaux MIMA, juste avant le spectacle, la visite. Et tout ça, c'est évidemment indiqué dans notre programme, sur le site internet, tout ça est bien expliqué.
Et bien répertorié.
De coupler spectacle et territoire, parce que on est dans un site magnifique, on est au pied des Pyrénées, la ville, tout le paysage est vraiment très très beau, donc autant en profiter et pas rester uniquement à Mirepoix pendant tout le festival, bien qu'il s'y passe beaucoup de choses, mais de prendre le temps aussi d'aller visiter les villages alentours qui fourmillent de pépites patrimoniales et paysagères.
Non, et de les faire vivre autrement aussi.
Voilà, exactement.
D'accord. Je vous remercie infiniment et à très bientôt.
Au revoir. Merci beaucoup.
Au revoir, Caroline Gallo.
Au revoir.
Remporter cette course, ça enflouerait ma bourse et noierait le poisson. Si ce maudit canasson remportait cette épreuve, peu importe qu'il pleuve, ça sauverait la saison. Si ce vieux bus et femme n'est pas le bon cheval, je mange mon journal. Si ce maudit canasson gagne sur le papier, il reste à recopier tout ça sur le gazon. Si un autre canasson vient mettre le désordre, il me reste la corde, la balle ou le poison. Si ce vieux bûcher fin n'est pas un bon tuyau, je mange mon chapeau. Je serai l'Alexandre du débit de boisson. Mais si un autre équidé sort du cornéadé, je rends mon tablier et je me fais oublier. Si ce bucéphale ne vaut pas un jeton, je mange mon melon. Sur ce maudit canasson, j'ai joué mon alliance pour sauver la finance, redorer mon blason. Et j'ai le cœur qui galope et les poumons qui jouent. Je fume clope sur clope et je mange maison. Si ce bucéphale ne sauve pas la mise, je mange ma chemise. Et sans fin. ce n'est qu'un parti.